En lisant les deux lettres de l'apôtre Pierre, nous sommes frappés par le ton de ces lettres et particulièrement par certains mots qui font réfléchir le lecteur consciencieux. De ces lettres se dégage un ton aimant, angoissé parfois, plein de compassion et de ferveur. On ne reconnaît pas le Pierre d'autrefois. C'est maintenant un homme marqué par la vie, mûri par les épreuves et l'expérience, assagi par le travail, les angoisses, les déceptions et les vicissitudes inhérentes à sa mission d'évangéliste pour la gloire de son Dieu. Il parle à ses chrétiens dispersés en les appelant ses bien-aimés. Mes bien-aimés, répète-t-il, je vous exhorte. On entend presque la voix du Seigneur lui-même qui dit doucement, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un père qui parle à ses enfants, un père qui sent venir la mort et qui veut les exhorter une dernière fois. Je pense que c'est là l'impression la plus forte et la plus juste que nous recevons, car l'apôtre sait qu'il va mourir. Il l'avoue dans sa seconde lettre. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. C'est sur un de ces avertissements, un des plus importants, que je voudrais m'attarder quelques instants. Dans le chapitre 1, au verset 17, il écrit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ». Dans le chapitre 2, il reprend la même idée. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pèlerins, étrangers et voyageurs sur la terre. » Voilà trois mots qui retiennent notre attention, parce qu'ils suggèrent quelque chose de contraire à la pensée du monde en général. D'après cet apôtre de Jésus-Christ, notre vie n'est donc qu'un pèlerinage. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous y avons été placés par la volonté de Dieu, mais elle n'est pas notre demeure éternelle comme le croient ou l'espèrent certains. Notre héritage nous est réservé dans les cieux, précise-t-il. Sur ce point, nous comprenons très bien la pensée de l'apôtre, qui s'attend à être repris subitement. Il désire souligner dans le cœur de ses bien-aimés que la vie est éphémère, incertaine, et à cause de cela, il veut surtout préciser le sens de cette vie, c'est-à-dire sa direction et sa signification. Tout à l'heure, nous avons dit que ces trois mots, pèlerinage, étranger et voyageur, retenaient surtout notre attention, parce qu'ils vont à l'encontre de la pensée du monde en général. En effet, quel est le but des hommes sur cette terre? De quel projet nourrissent-ils encore leur cœur? Quelles sont leurs espérances? En général, on convoite la puissance et la gloire. On désire la jouissance et les honneurs. On a soif de richesse. C'est ce que Pierre appelle les convoitises charnelles. Les hommes ne se sentent pas en pèlerinage. Ils refusent de penser à la mort et font semblant d'être éternels. Étrangers, encore moins, car ils se sentent les possesseurs du monde, dont ils renient pourtant le Créateur. Voyageurs, certainement pas. Un voyageur a un but. Eux sont des errants qui vont de ténèbres en ténèbres. Mais vous autres, mes bien-aimés, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Car, ajoute-t-il, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. L'apôtre Jacques, dans son épître, désire mettre en évidence cette même vérité. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ces considérations plongeaient David dans une profonde humilité qui le faisait s'exclamer « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Quelle doit donc être notre attitude devant la brièveté et l'incertitude de notre vie? Devons-nous nous révolter? Mais contre qui? Et contre quoi? Devons-nous nous lamenter comme cet auteur qui écrit « C'est une misère que d'être né, une souffrance que de vivre, une angoisse que de mourir. » Certes, non. Et les deux lettres de Pierre sont loin d'être une lamentation pessimiste. Elles font naître l'espoir et la joie, même devant l'éventualité de la mort. Écoutez-le. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Dans les lettres de Pierre adressées à des chrétiens, la vie est autre chose qu'un problème angoissant. Elle est un effort en vue d'un but bien déterminé. et si parfois elle est lourde à porter à cause des souffrances qui l'accompagnent, elle est quand même pleinement acceptée, pleinement offerte comme un don au Dieu de promesses et d'amour. Un but, une direction, un sens à notre vie. Voilà ce qu'il faut à tout homme. Voilà ce que propose l'Évangile. En travaillant pour les seuls biens matériels, a écrit Saint-Exupéry, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre, qui ne procure rien qui vaille la peine de vivre. Parallèlement, l'écrivain Charles Morgan semble rejoindre singulièrement l'apôtre Pierre lorsqu'il dit « Il me semble qu'on résout le problème de la vie quand on a découvert ce qui doit prendre le premier rang. » Ce premier rang, cette préoccupation primordiale et vitale, doit être l'Évangile, c'est-à-dire le Christ. « Pour moi, vivre, c'est Christ », avait écrit l'apôtre Paul, et il ajoute « Mourir représente un gain ». Christ est le centre des épîtres de Pierre. Christ est le centre de la vie de Pierre. C'est pour lui qu'il allait donner sa vie. C'est en son nom qu'il exhorte les chrétiens de tous les siècles. Il voudrait que Christ devînt la motivation de la vie de chaque homme. Il désire par-dessus tout que ceux qui se sont déjà engagés pour lui ne perdent pas de vue leur vocation. C'est pour cela qu'il leur rappelle avec ferveur que le Dieu de grâce vous a appelé en Jésus-Christ. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. À ceux qui ne comprennent pas le sens des souffrances injustes qu'ils endurent, il confie que si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. En insistant ainsi sur le rôle rédempteur du Christ, Pierre met en exergue l'autorité incontestable du Fils de Dieu. Jésus est le chef de l'Église. Il n'en existe pas d'autre. Certains l'ont rejeté pour bâtir sur de mauvaises fondations. Aux Juifs incrédules, Pierre dira « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Des années plus tard, il prêche encore « Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Dans ce même passage, Pierre dépeint l'Église dans toute sa grandeur, cette Église qui est l'immense assemblée de ceux que le Christ a sauvés. S'adressant à tous les chrétiens de tous les siècles, il dit « Édifiez-vous comme des pierres vivantes, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Le temps nous manque pour continuer de puiser dans ce trésor de connaissances et de communications divines que constituent les deux lettres de Pierre. Qu'il nous suffise pour conclure de rappeler avec Pierre que c'est dans l'engagement de sa conscience et de son âme pour le Christ que l'homme trouve son accomplissement et son salut, son but et son idéal dans cette courte vie. Faisant allusion à la famille de Noé qui fut sauvée à travers l'eau, Pierre nous apprend que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Chers auditeurs, n'avez-vous pas envie de répondre à la voix de celui qui vous dit « Venez à moi » ? N'avez-vous pas le désir de vous engager pleinement vis-à-vis de lui, sachant qu'il vous a aimé le premier ? Vous trouverez en lui le sens de la vie et de la mort. Vous appartiendrez à cette immense famille de ceux qui ont non seulement réussi leur vie, mais qui ont trouvé la vraie vie, celle-là même qui jaillit jusque dans l'éternité.